Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 3 novembre 2014. Bienvenue à vous à ce grand dialogue qui fait le point des 12 mois d'enquête sur le double meurtre de Kidal de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon de RFI. Ils étaient journalistes et techniciens à Radio France. Voici les axes de ce débat. Le point sur l'enquête. Pouvait-on éviter l'enlèvement? Deuxième partie. Les leçons de cette affaire sera la troisième partie. Alors pour cela, nous aurons Adam Thiam qui est dans ce studio. Également Serge Daniel, journaliste. Écrivain. André Bourgeot également sera en ligne, qui est directeur de recherche au Centre National de Recherche Scientifique de France. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. En plein exercice de leurs fonctions, Ghislaine et Claude ont été tués le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord-est du Mali. Peu après avoir été enlevés par un petit groupe d'hommes armés, Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué leur assassinat. Le parquet de Paris a ouvert au printemps 2014 une information judiciaire sur cet assassinat. Alors aujourd'hui, Serge Daniel, que sait-on de cette affaire depuis un an que ça dure?
Écoutez, il y a beaucoup de questionnements. Ce qu'on sait, c'est que le 2 novembre à Kidal, ils étaient sur le responsable du MNLA, M. Ambéry, et qu'ils ont été enlevés, Gigi et Claude ont été enlevés à la sortie de cette interview qu'ils avaient avec M. Ambéry. Ils ont été amenés à 12 km de Kidal, où l'armée française, à l'époque c'était Serval, aujourd'hui c'est Barkhane, on a retrouvé leur corps. Il y a beaucoup de questionnements. La première question, c'est pourquoi avoir annoncé aussi tardivement la découverte des corps de Ghislaine et de Claude. Moi, par exemple, à cette époque-là, j'ai appris l'enlèvement, j'ai appris la mort dès le départ, bien près de plus de 30 minutes avant que ça ne soit officiel. Pourquoi? Alors, l'autre question, c'est est-ce que ce jour-là, effectivement, il y avait un hélicoptère de l'armée française sur les lieux? Non, répond le général, le patron des forces Serval de l'époque, le général Foucault, que j'ai rencontré. Alors, pourquoi les ravisseurs ont tiré? Est-ce que c'est parce que le véhicule est tombé en panne? Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu peur? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un mouvement? Qui est ce Baye Akabo qui est le principal suspect? Voilà, il y a des questionnements.
Alors, toutes ces questions, vous les posez à qui aujourd'hui?
Je vous les pose à vous, par exemple. Je me les pose à moi. Je les pose aux enquêteurs qui n'ont pas pu encore aller sur le terrain.
Alors, Adam Thiam, beaucoup de choses ont été dites sur cette affaire. Serge parlait a évoqué un certain nombre de questions. Ces questions, on les adresse à qui aujourd'hui?
Alors, il faut dire que Serge a plus de familiarité avec le sujet que moi. Ghislaine Dupont et Claude étaient ses collègues. Il les a suivis. Moi, j'ai appris l'information simplement de Nara, où je m'étais rendu auprès de l'ancien président de transition. Mais je dois dire que ce même 2 novembre, il y avait une émission prévue, je crois, c'était au musée. Et puis je devais être sur le plateau et je devais parler avec Ghislaine Dupont, qui elle était à Kidal. Ce dont je me souviens, c'était l'incrédulité qui a accueilli la nouvelle de la mort. C'est l'émotion ici au Mali comme dans le monde. Et je crois que les questions restent d'autant plus ouvertes que si Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont les victimes les plus célèbres du trou noir de Kidal, on doit dire qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de Maliens, beaucoup d'autres personnes qui sont passées par là, qu'on ne connaît pas. Et toute la question, c'est de savoir pourquoi, alors que le pays entier était en train d'être pacifié, alors que Tombouctou, Gao était fréquentable, Kidal restait un endroit très très peu sûr. D'ailleurs, Serge, je ne sais pas si tu te rappelles, cet incident est intervenu quelques jours après la libération des otages français d'Arlit. Et les conditions de la libération de ces otages qui ont pu être libérés à cause des rançons, nous interpellaient, nous en tout cas, aux Républicains. On a fait un éditorial, dit bon, ils sont libres, mais si les rançons étaient payées, quelles sont les prochaines victimes sur la liste?
À l'époque, on disait qu'il n'y avait pas de rançon, mais cette question reste toujours
c'est très difficile d'obtenir ces libérations sans rançon, et on ne saura jamais tant que les payeurs de rançon eux-mêmes ne le disent pas et que ceux qui ont perçu la rançon ne le reconnaissent pas.
Alors, André, s'il vous plaît, André Bourgeot est au téléphone. Je vais juste le faire intervenir. André Bourgeot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes du CNRS de France. André Bourgeot, cette affaire a donné du grain à moudre à beaucoup de personnes. Est-ce que on sait, de votre côté, vous avez plus d'éléments que nous dans ce studio?
Bon, je n'ai pas de compétences particulières sur la situation qui prévalait à l'époque et sur les conditions d'assassinat de ces deux journalistes. Alors, par rapport au questionnement que Serge Daniel vient d'énoncer, il y a peut-être aussi une autre hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse. On ne tue pas comme ça les gens gratuitement. Alors, est-ce qu'ils n'étaient pas détenteurs d'informations qu'il ne fallait pas diffuser? Est-ce qu'il n'y a pas eu une réaction de panique? Parce que s'ils étaient encore en vie, peut-être ils auraient dit qui les a accompagnés, qu'est-ce qui s'était passé. Donc, il y avait manifestement des intérêts que je ne pourrais pas caractériser. Encore une fois, je n'ai pas été témoin de rien du tout. Mais en tout état de cause, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre qui interpellent, d'une part. D'autre part, il semblerait aussi que l'enquête piétine. Alors, on légitime ce piétinement de l'enquête qui n'avance pas à cause de la situation sécuritaire dans le septentrion malien et plus particulièrement dans la mer des Ifoora et la région des Kidal. Est-ce que c'est un argument suffisant pour dire que l'enquête n'avance pas? Je ne sais pas, mais en fait, c'est cette cause. On est en droit de se poser des questions à cause de ces zones d'ombre. Maintenant, une remarque de type ethnographique qui mérite quand même vérification et confirmation. Il semblerait que M. Oumberi ait accompagné les deux journalistes jusqu'à la porte de sa maison.
Vous parlez d'Oumberi. Oumberi Agrissa, membre du MNLA.
Oui, membre du MNLA. Or, dans toute société musulmane, et plus particulièrement chez les nomades, on accompagne toujours ses hôtes jusqu'à l'endroit auquel on va les laisser, parce qu'ils vont atteindre leur chameau pour les uns, pour les autres, ils vont atteindre leur véhicule. Donc on ne laisse jamais les autres comme ça sur le pas de la porte. Ceux qui font ça, c'est nous. Mais chez les musulmans, jamais, on accompagne toujours, au moins sur une cinquantaine de mètres. Alors si effectivement M. Oumberi ne les a pas accompagnés jusqu'à leur véhicule, pourquoi? Donc vous voyez, il y a tout un tas de situations qui créent un petit peu la suspicion. C'est tout ce que je peux dire.
Merci beaucoup André Bourgeot. Vous restez avec nous tout au long de l'émission. Vous pouvez réagir quand vous voulez. Alors Serge Daniel, vous voulez intervenir par rapport à ce que disait Adam Thiam tout à l'heure.
Oui, en fait je voulais dire deux choses. C'était que la marque de fabrique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est d'enlever les otages européens et de les libérer contre paiement d'une rançon. C'est capital chez les gens d'ACMI. Donc évidemment, vous avez parlé de rançon, de libération quelques jours avant d'otages français, de ressortissants français, aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Baye Akabo, qui est le principal suspect dans l'enlèvement et dans l'assassinat de Ghislaine Dupont, avait des relations avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. On sait aujourd'hui qu'il était en contact avec un chef djihadiste. On sait également que ce n'était pas peut-être c'était une commande peut-être d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il faut chercher sur cette piste-là. Mais la question est également tribale. Il est d'une tribu. Il est de la même tribu que Oumberi. Baye, qui est le principal suspect, est de la même, n'est pas la tribu des Tagamalettes, c'est-à-dire c'est une sous-tribu, une faction, si vous permettez. Donc, il est évident, je ne dis pas que Oumberi est responsable de la mort de Ghislaine et de Claude. Mais ce que je veux dire, c'est que l'assassin, le suspect est de la même tribu que lui, et qu'il a peut-être eu plus facilement, parce qu'ils sont de la même tribu, il a pu suivre Ghislaine plus facilement, il a pu suivre Claude plus facilement, ce Oumberi. Il faut également chercher de ce côté-là.
Alors, comme Serge l'a dit, le MNLA, à l'époque, assurait la sécurité au même titre que certaines forces sur place. Malheureusement, nous n'avons pas pu joindre les membres du MNLA pour parler au nom de ce mouvement dans ce débat. Alors, s'il y a quelqu'un qui est optimiste par rapport à la suite de l'enquête, c'est bien le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius. Aujourd'hui, Laurent Fabius affiche un certain optimisme par rapport au dénouement de l'enquête. Comment faut-il l'interpréter aujourd'hui, Adam Thiam?
Je sais pas, j'aimerais déjà saluer Laurent Bourgeot de l'autre côté de André Bourgeot, à l'autre côté de la ligne, et puis pour dire que la remarque qu'il a faite de type ethnographique est vraiment pertinente. En général, ici, on raccompagne les visiteurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé si Ambéry ne les a pas raccompagnés, mais j'aimerais aussi, effectivement, qu'on ne pense pas que l'inobservance d'une règle bien séance peut amener Ambéry à être suspect dans cette affaire. Encore que, on m'avait dit effectivement que son fils faisait partie de ceux qui avaient accompagné ces gens à la porte. Et puis, aux premières heures de la nouvelle, il y avait toutes sortes de rumeurs qui avaient circulé, y compris que l'un des fils d'Améry pouvait avoir été des alliés de ceux qui ont enlevé. Serge a parlé de Baye Akabo, c'est quand même connu que Baye Akabo étant un intermédiaire, c'est même un partenaire de Acme. Il y avait, on peut dire, Abdelkrim, le Touareg, mais tout ça, c'est à mon avis des épiphénomènes. Ce qui est important, c'est que à Aguelok, où il y avait le camp militaire, pendant des années, le camp d'Abdelkrim Targhi était à 20 km du camp de Aguelok. On peut se demander pourquoi l'État malien a laissé faire ça, pourquoi l'armée n'a pas agi, pourquoi un des camps de Al-Qaïda au Maghreb islamique était seulement à 80 km de Rarous, vu au sud de tout le monde.
Et donc, maintenant ma question, Adam.
Oui, non, mais la question c'est, je veux dire, Laurent Fabius, je ne peux pas juger ce qu'il a dit. Il a promis que dans un an, on saura peut-être la vérité. Je le vois très très mal en train de nous dire, écoutez, on ne saura jamais ce qui s'est passé dans cette affaire, oublions-la. Donc il est dans son rôle, mais ça ne veut pas dire grand-chose qu'il est promis, quoi.
Serge, un avis là-dessus ?
Alors, l'autre question, moi je pense que si M. Laurent Fabius parle comme ça, c'est qu'il a des éléments que nous n'avons pas. Mais évidemment, il ne peut pas être pessimiste parce que c'est une question, vous le savez, qui a été posée d'abord à l'Assemblée, au gouvernement. Il y a eu quand même la douleur, la tristesse après ces morts-là. Donc, il est évident qu'il est dans son rôle d'être optimiste. Il a peut-être des éléments. Mais l'autre questionnement, et j'ai oublié tout à l'heure de le dire, très rapidement, on a su que Baye, par exemple, était l'un des suspects, puisqu'on a retrouver son véhicule sur les lieux du crime. Pourquoi n'a-t-on pas tout de suite perquisitionné le domicile de Baye, par exemple, qui est à Kidal, qui est connu, on sait où il habitait? Ça aussi, c'est une autre question qu'on doit se poser. Il faut qu'on retrouve les meurtriers de Ghislaine et de Claude. J'ai l'habitude de dire que Kidal, la région de Kidal, c'est 260 000 km² et qu'il y a 120 000, 110 000 km² de massifs rocheux, montagneux. Les assassins doivent être là. Il faut pouvoir aller les chercher, même s'il le faut, à la fourchette, à l'escargot.
Alors, André Bourgeot, il sera un peu hasardeux pour moi de vous donner la parole à quelques secondes de la pause. Nous allons donc observer cette pause. Avant, je vous laisse la parole pour réagir à ces propos du ministre des Affaires étrangères français.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Oui, les réseaux sociaux, grâce à notre page Facebook, vous pouvez réagir à tout ce que vous entendez ici au Studio Tamani et faites également un tour sur notre site web www.studiotamani.org. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'anniversaire, de la date anniversaire du double meurtre de Ghislaine et de Claude de RFI à Kidal. Alors, nous avons comme invité Adam Thiam, éditorialiste, André Bourgeot, directeur de recherche au Centre National de Recherche Scientifique de France, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Alors, nous sommes à la deuxième partie, mais juste avant d'entamer cette deuxième partie, André Bourgeot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire face à cet optimisme du ministre français des Affaires étrangères ?
Oui, bon, j'aurai pas grand chose à dire sur ce que lui pense. Il est détenteur d'informations que je n'ai pas. Mais la question qui me paraît fondamentale, c'est qui aurait intérêt, à qui profiterait le crime. À partir du moment où on a un embryon de réponse à ça, que ça permettrait peut-être de faire avancer un petit peu l'enquête. Il y a autre chose aussi qui est un peu surprenant, sauf erreur de ma part, la presse ou dans les sites spécialisés ont mentionné qu'à l'intérieur de ce véhicule, il y avait des téléphones portables et des documents. Donc on s'imagine mal quelqu'un qui va tuer deux personnes et qui va fuir tout en laissant des traces derrière. Or ces traces-là, on n'a pas eu d'analyse sur ces traces. Est-ce qu'elles existaient véritablement? Et si elles existaient, pourquoi on ne dit rien sur ces documents? Ça me paraît quand même quelque chose d'important. Donc encore une fois, à qui pourrait profiter le crime?
Alors, nous entrons donc de plein pied dans cette deuxième partie. Pouvait-on éviter cet enlèvement? Serge Daniel, cette question est un peu difficile à entendre, mais j'estime qu'il est bon de la poser. Était-il opportun de faire ce déplacement sur Kidal?
Le rôle d'un journaliste, c'est d'aller là où il y a l'information. Moi, je me souviens pendant l'occupation, c'est-à-dire que pendant que les islamistes occupaient le nord du Mali, je suis allé deux fois dans le nord du Mali. Dans le nord du Mali, sous contrôle des islamistes, en passant par Niamey, ensuite j'ai pris la route pour aller en Songo. Dans Songo, je suis revenu à Gao. Évidemment, les maîtres des lieux à ce moment, c'était des islamistes et qui m'avaient demandé de venir. Donc j'avais eu leur feu vert pour me rendre sur place. Il faut aller là où il y a l'information. En plus, je vais vous dire une chose, j'ai suivi un peu ce voyage. La première fois ils étaient venus, c'était pour le premier tour de la présidentielle. Et c'est moi qui ai conseillé à l'époque à Ghislaine et à Claude d'habiter chez le gouverneur, parce que ici au Mali, comme ailleurs probablement en Afrique, là où on va, quand vous allez dans une localité que vous n'avez pas où dormir, vous allez chez le gouverneur, vous allez chez le maire de la ville. Et pour nous à RFI, il n'était pas question de voir des journalistes d'RFI dormir par exemple chez des rebelles ou etc. Comme ça s'est passé dans le passé ou ailleurs, comme en Côte d'Ivoire. Moi j'étais à l'époque de la rébellion ivoirienne, j'ai couvert la rébellion ivoirienne de Boaké par exemple, j'étais chez les rebelles. Donc il fallait aller là-bas. La question c'est, est-ce qu'on a pris les précautions? Oui, parce que j'ai vu Ghislaine avant qu'elle ne parte, et qu'ils sont arrivés, ils étaient suivis. 2 heures avant leur enlèvement, ils étaient en contact avec Yves Rock, par exemple, qui est le directeur le patron du service Afrique. Il fallait y aller, ce ne sont pas des têtes brûlées, mais le risque zéro n'existe pas du tout.
Alors, est-ce que c'était un simple reportage?
C'était un simple reportage, parce que l'idée était la suivante, c'était de dire, nous allons donner la parole aux 3 régions du nord du Mali. Moi, Serge Daniel, j'étais chargé d'aller à Gao. J'étais déjà allé à Gao, je suis revenu à Bamako avec les événements. Le numéro 2 d'RFI à Bamako, David Bachet, lui, il était chargé d'aller à Tombouctou. Il était allé à Tombouctou, il était revenu. Mais Kidal, c'est quand même le cœur, si vous voulez, de la rébellion. Le Kidal, c'est le berceau de la rébellion Touareg. Donc l'idée, c'était d'envoyer quelqu'un là-bas, puisqu'il y avait des problèmes de communication, Claude est parti donc pour la retransmission, pour les raisons techniques, et Ghislaine est parti donc comme rédacteur. Donc voilà pourquoi ils sont partis. Ils n'ont pas été faits du tourisme, ils ont été pour leur boulot. Et ils étaient 2, tout simplement parce que il fallait un technicien pour retransmettre, parce qu'il n'y avait pas de ligne téléphonique fiable là-bas. Et donc, expliquer, donner la voix, donner la parole aux Maliens des 3 régions du nord du Mali, c'était d'abord l'objectif de Radio France Internationale. Je vous dirais que Christine Muraté, par exemple, qui est une journaliste à RFI, était, elle, chargée d'aller, par exemple, à Sikasso. C'est-à-dire le Mali arc-en-ciel, le Mali pluriel, c'était l'objectif de cette journée spéciale que RFI voulait faire.
Peut-être, vous avez raison, Serge, mais peut-être il fallait un autre casting. Vous, peut-être les enjeux n'étaient pas les mêmes. Enlever des Occidentaux, c'est toujours différent d'enlever un Africain. Vous êtes Africain, donc
vous vous trompez lourdement, parce que si je connais un peu quelque chose, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il dit ceci, les amis de nos ennemis sont pires que nos ennemis. À partir du moment où je travaille pour Radio France Internationale, l'agence France Presse et parfois France 24, j'étais aussi une cible. En plus, il y avait déjà eu des élections présidentielles, ok. Il y avait des autorités légales sur le terrain, mais disons que la zone, la ville était partagée entre plusieurs groupes armés, disons-le. Vous avez des touristes qui ont été enlevés à Omoride, vous avez des touristes qui ont été enlevés à Tombouctou, et je pense que nous on a pris toutes les précautions, le risque zéro n'existe pas. Est-ce qu'il fallait aller là-bas? Je vous réponds, oui, il fallait aller. Et de dire, par exemple, oui, mais parce que toi tu es africain, tu aurais pu aller là-bas. Non, j'aurais pu me faire enlever par à Gao, j'aurais pu me faire enlever par Tombouctou. Ils ont montré justement que moi, si par exemple on m'envoyait à Kidal, on aurait pu dire oui, on envoie un Africain parce que voilà, il ne coûte pas plus cher qu'un Français. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce discours. parcours-là.
Alors, André Bourgeot, merci beaucoup, Serge. André Bourgeot, pensez-vous que ce casting de RFI d'envoyer ces deux reporters à Kidal était le bon?
Bon, ça m'est difficile de répondre d'une manière immédiate à cette question. L'objectif de tout journaliste était à la recherche d'informations. Ensuite se pose le problème des circonstances pour acquérir ces informations. Dans le contexte de l'époque, effectivement, il y avait des risques, mais comme vient de le dire le journaliste écrivain Serge Daniel, il n'y a jamais de risque zéro. Pour un chercheur, c'est un peu différent parce qu'on doit se soumettre à la législation en œuvre. Or, actuellement, le ministère des Affaires étrangères français considère que toute cette zone-là est une zone rouge et qu'il est fortement déconseillé d'y aller. Ce n'est pas une interdiction, il y a toujours possibilité d'une prise de décision individuelle et de transgresser ce que dit le ministère des Affaires étrangères. Et ces journalistes-là, il semblerait que Ghislaine avait une certaine expérience du Septentrion, qu'elle y connaissait des gens, donc elle est partie aussi probablement en toute confiance. Le problème qui est posé, est-ce qu'on peut être à la recherche d'informations dans toutes les circonstances? Ça pose le problème de quelle est la position, quel est le comportement des journalistes dans des situations de guerre. Moi, je n'ai pas d'opinion particulière là-dessus.
Alors, Adam Thiam, un mot sur ce casting?
Non, mais je ne sais pas. Franchement, moi, ce que je trouve difficile, c'est la question. Il est évident qu'il y avait des risques et la mort de ces deux l'a prouvé. Maintenant, pourquoi ils sont partis? Ils étaient déjà partis le 30 juillet, il n'y avait pas de problème lors du premier tour de l'élection. Et ils ont pensé probablement que, oui, ils auraient la même baraka. Ce qui est évident, c'est que s'ils savaient qu'il y avait ce risque-là de mourir, probablement ils l'auraient, soit ils ne seraient pas allés, soit ils auraient pris des précautions particulières. Et ce qu'André Bourgeot a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une grande partie du pays qui était déjà classée zone rouge avant même leur départ sur Kidal, depuis des années. Il y a des raisons objectives pour lesquelles on l'a fait. C'était très bien d'avoir l'information sur Kidal. D'ailleurs, Ghislaine Dupont était la seule, je crois, journaliste étrangère à avoir fait un reportage de Kidal pour l'élection présidentielle. C'était un très très bon reportage. Pour le faire, il a fallu qu'elle prenne le risque, mais bon, voilà. Et trois mois plus tard, effectivement, il s'est avéré que c'était peut-être le risque de trop.
Alors, juste un mot sur la sécurité au moment des faits à Kidal. La MINUSMA a retranché dans son camp, l'armée malienne également dans son camp. Seuls le MNLA et l'armée française pouvaient circuler dans la ville. Quelles sont leurs responsabilités à ces deux forces, je veux dire au groupe MNLA et à l'armée française, André Bourgeot?
Bon, il est difficile à dire de citer les responsabilités. Il semblerait, mais je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans la presse et sur les sites spécialisés, c'est qu'ils se sont adressés à l'opération Serval pour leur assurer une protection, et que c'est inconditionnel, hein, c'est extrêmement délicat de répondre précisément à cette question, et que l'opération Serval, je crois, ou la MINUSMA, vous l'avez dit très bien, leur aurait aussi fortement déconseillé de s'y rendre. Et que... fort de ces conseils, apparemment, si le conseil aurait été transgressé, ils seraient partis quand même faire leur travail auprès des populations et de certains éléments de Kidal. Voilà ce que l'on peut dire. Ce sont toujours des situations extrêmement complexes, confuses, dans une situation où la sécurité est particulièrement imposante, et que dans ces circonstances-là, tous les coups sont bons. Tous les coups sont permis. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait à qui pourrait profiter le CRI. Peut-être qu'il peut profiter peut-être à personne. En tout état de cause, il crée une confusion, il crée la suspicion, et on a des difficultés à situer les responsabilités. Alors, est-ce qu'il y a une part de responsabilité du côté de l'administration malienne? Je crois savoir que l'administration malienne était guerre, c'est un euphémisme, et représentait la Kidal. Donc, Voilà ce que l'on peut dire. On ne peut pas non plus formuler des accusations. Les règles ont été données, certaines règles ont été transgressées pour réaliser une profession, pour réaliser les objectifs d'une mission journalistique. C'est tout ce que l'on peut dire.
Alors, zone de tension, sécurité précaire, quelle responsabilité peut-on attribuer aux acteurs, Serge Daniel ?
Il y a deux choses, je voulais préciser par rapport à ce que disait le monsieur,
André Bourgeot.
Monsieur André Bourgeot du Collège de France, c'est que l'opération Serval n'a pas refusé d'amener Ghislaine et Claude à Kidal. Le problème, c'est qu'ils ne faisaient pas de vol à ce moment-là, mais ils sont partis dans un avion de la mission des Nations Unies au Mali, c'est-à-dire la MINUSMA. Mais vous n'allez pas dans une zone, par exemple, lorsque vous partez dans une zone, voilà comment ils travaillaient, je vais vous le dire, c'était des gens très prudents. Ils habitaient à la mairie où se trouvait le gouverneur, donc il y avait une relative protection. Ils voyaient tous les acteurs, et qu'à chaque fois qu'ils allaient voir un acteur, ils étaient en contact avec la direction. Je ne pense pas que Serval soit responsable ou que Serval n'a pas du tout à refuser de les amener. Il n'y avait tout simplement pas de vol. Et la mission de l'ONU au Mali... Le problème, quand vous allez dans ces zones de guerre, le problème est le suivant. Est-ce qu'il faut un garde du corps de manière permanente? J'ai vécu ça dans le nord du Mali. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais sous l'occupation des djihadistes, j'étais à Gao. Je suis parti à Gao deux fois et à Tombouctou une fois. Mais tout peut arriver. Mais c'était pas encore une fois, je vais le préciser, c'était pas des têtes brûlées. Ils ont pris les précautions qu'il fallait prendre, mais le risque zéro n'existe pas. Ce qui est arrivé est dramatique.
Alors, Adam Thiam, par rapport à cette sécurité précaire qu'il y avait à Kidal, peut-on demander plus de précision aujourd'hui à certains acteurs, comme la Force Serval et le MNLA?
Oui, c'est-à-dire qu'on peut leur demander d'aider à la manifestation de la vérité, parce que c'était les deux seules forces qui étaient là. Ça, c'est ça peut être leur responsabilité. Maintenant, moi, en tant que Malien, en tant que journaliste malien, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, alors que Gao et Tombouctou bénéficiaient d'une accalmie relative, Kidal restait effectivement vraiment turbulent. Et je crois que cela dépend vraiment beaucoup de la stratégie de libération du pays, alors que les Serval a frappé presque indistinctement à Tombouctou et à Gao, il a été très prudent pour Kidal, simplement à cause des groupes armés qui étaient là, le ASUA, le MNLA, qui avaient déjà été présentés dans les résolutions des Nations Unies comme éligibles au dialogue. Et donc, c'est que Kidal a bénéficié d'une application de la résolution des Nations Unies qui demandait à l'État malien, effectivement, d'entrer en négociation avec les éléments armés qui, eux, étaient à Kidal et surtout.
Alors, justement, sur le rôle de la MINUSMA, à un moment donné, on parlait de l'audition de quelques membres de la MINUSMA par rapport à cette enquête. Qu'en est-il aujourd'hui, cette année ?
J'ai entendu parler de ça. J'ai entendu parler de... D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que le jour de l'assassinat, il y a eu un avion de la MINUSMA qui a décollé de Kidal. Est-ce que l'avion aurait pu attendre, participer aux recherches ? L'avion transportait notamment le chef militaire de la MINUSMA, le général rwandais, par exemple. Évidemment, moi je ne veux accuser personne, parce que nous sommes encore au stade de l'enquête, des enquêtes, des responsables de la MINUSMA ont été entendus, je ne sais pas ce qu'ont dit ces responsables-là, mais je vais vous donner mon sentiment. Je suis persuadé qu'on trouvera les assassins. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas chercher loin. Vous avez une zone, une région de Kidal, où les assassins sont actuellement. Vous savez que l'un des premiers suspects, Baye, on en parlait tout à l'heure à un moment, la presse malienne a dit par exemple que Baye était revenu dans la localité de Kidal. Ils ne peuvent pas rester sans téléphoner. Et je suis persuadé que ne serait-ce que pour ça, tôt ou tard, on va les arrêter.
Alors nous allons observer juste deux secondes de pause avant la troisième et dernière partie de cette émission.
Action.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Aujourd'hui, merci de rester fidèle à cette émission. Aujourd'hui, nous parlons du double meurtre de Ghislaine et de Claude de RFI. Un an après, qu'en est-il? Nous sommes à la troisième partie qui parle des leçons à tirer de cette affaire. Et pour parler justement de cette question, nous avons trois invités. Adam Thiam, éditorialiste, André Bourgeot, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique de France, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Alors, cette troisième partie donc, les leçons tirées de cette affaire. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer désormais de cette affaire par rapport à la protection des journalistes dans des zones de guerre, André Bourgeot?
Oui, si vous permettez d'écrire, faire un constat des choses, c'est pas procéder à des accusations, mais sauf erreur de ma part, il y a un an, l'opération Serval était bien représentée à l'aéroport, à l'aérodrome de Kidal. Donc il y avait quand même une présence militaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils les ont contactés pour demander une protection militaire? Est-ce qu'ils l'ont demandé? Je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, il y avait quand même une présence susceptible d'assurer une protection. Donc ça pose quand même une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à partir du moment où on n'a pas de données concrètes, on n'a pas de témoignages vérifiables, c'est difficile d'envisager les hypothèses. D'où le fait qu'il y a tellement de zones d'ombre qu'on est un petit peu coincé pour donner des interprétations et pour envisager des choses qui se seraient passées.
Alors, maintenant, par rapport à ma question.
Oui, votre question était quoi? Parce que je n'ai pas entendu correctement.
Alors, je parlais tout à l'heure, aujourd'hui, de la nécessité de tirer une leçon de ce qui s'est passé à Kidal, de cette curiosité par rapport aux journalistes qui étaient en mission. Que faut-il en tirer aujourd'hui de la protection des journalistes dans les zones de guerre?
Tirer des leçons, comment dire, tirer des propos généraux et des leçons générales sur des cas particuliers, non, je pense qu'effectivement, une petite décision relève aussi d'un comportement individuel. Donc, est-ce que le milieu journalistique, que je ne connais pas, est-ce qu'ils ont une certaine déontologie, des consignes de comportement dans des situations de guerre? Là-dessus, moi, je ne saurais pas vous répondre. Je ne peux vous répondre que en fonction de ma profession de chercheur. Nous, en tant que chercheurs, on voit bien que depuis des années, on ne peut plus du tout travailler dans l'espace saharo-sahélien, ce qui pose des problèmes d'ordre scientifique. Le problème pour les journalistes est de nature complètement différente. Donc il appartient à M. Daniel et à M. Dantian peut-être de répondre plus précisément que moi à cette question.
Alors justement, cette question, je la pose aux deux journalistes autour de cette table, en plus de ma personne. Adam Thiam, vous êtes éditorialiste. Quelle leçon faut-il tirer aujourd'hui de cette affaire?
Je pense qu'il y a déjà certaines leçons qui ont été tirées. Donc, face à la gravité de l'affaire, les Nations Unies ont déclaré le 2 novembre journée contre l'impunité des crimes dont peuvent être victimes les hommes et femmes de médias. Ce n'est pas un vœu pieux. Je pense que dans les années à venir, ils vont essayer de donner un contenu concret effectivement à la célébration de cette journée. Et puis, il y a une première évidence qu'il faut accepter, c'est que Kidal reste une zone dangereuse. Elle reste dangereuse pour les journalistes, elle reste dangereuse pour les Occidentaux, elle reste dangereuse pour tous les détenteurs d'enjeux. Et je suis d'accord avec Serge Daniel sur ce plan. Il a beau être africain, à Kidal, il reste un enjeu. Et puis, il y a éviter de donner, en fait, de sectionner le problème. C'est que le Mali est en crise, l'espace sahélo-saharien est en crise. Laurent Bourgeot l'avait dit tout de suite. André Bourgeot.
Vous avez du mal à...
Laurent Bigot, non, je le confonds avec Laurent Bigot, mais enfin, c'est André Bourgeot.
Monsieur Bourgeot, voilà.
Monsieur Bourgeot.
Il aime bien qu'on l'appelle monsieur.
Oui, non mais il y a... aucun anthropologue ne peut travailler aujourd'hui, faire des études longitudinales dans la zone sahélo-saharienne, c'est un problème. Et puis... il ne faut pas oublier que si la mort de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon était la manifestation la plus extrême de la crise que nous avons vécue, la crise malienne elle-même a quand même vu beaucoup de journalistes payaient de leur liberté, de leur chair, effectivement, cette crise. Mmh. Je pense au Saoudi Haïdra, je pense au Bukharida, je pense à Abdraman Keïta, mmh. qui ont payé pour la crise malienne. Parce qu'en fait, Kidal
malmené,
est un prolongement. Oui, mais d'accord. Non, mais Kidal est un prolongement de la crise malienne. C'est une conséquence de la crise malienne. Il n'est pas la cause de la crise malienne. C'est une conséquence de la crise malienne. Et je crois effectivement que, de ce point de vue-là, la leçon principale qu'on a apprise, qu'on est en train d'appliquer avec des hauts et des bas, c'est quand même la construction d'un État démocratique, d'un État plus fort.
Mmh. Alors, Serge Daniel, par rapport aux leçons, aux enseignements que l'on peut tirer de cette affaire.
Le premier enseignement pour moi, c'est que le risque, je le répète, le risque zéro n'existe pas. Le deuxième enseignement que je tire, c'est que il y a un avant assassinat Ghislaine et Claude, un après assassinat Ghislaine et Claude. Si vous faites attention, les journalistes font beaucoup plus attention quand on parle de Kidal. Moi, je suis pour les besoins, je terminais à marche forcée la rédaction d'un bouquin, je suis reparti à Kidal après l'assassinat de Ghislaine et de Claude, mais je peux vous dire que j'étais en turbanais, je peux vous dire que j'étais protégé, je peux vous dire que j'ai emprunté des routes de trafic, etc., mais que je n'allais pas là-bas en tant que journaliste et que j'ai pas ouvert mon micro, j'ai senti le danger. Donc, il ne faut pas y aller. L'autre question, c'est est-ce que, parce que c'est dangereux de ne pas y aller, est-ce qu'il ne faut pas, comment informer quand même les habitants? Comment informer la population? Comment informer l'extérieur de ce qui se passe en Kidal? Et le dernier enseignement que moi je tire de cette affaire tout à fait dramatique, c'est que c'est la preuve encore une fois, un an après, que le Mali est un pays en crise. Kidal est en crise, le Nord est en crise, il y a des accords aujourd'hui à Alger parce que des partis, des groupes armés sont en train de discuter. Le Mali, c'est la preuve pour moi, l'autre enseignement, le Mali reste toujours en crise.
Alors André Bourgeot, je rebondis sur cette question des pourparlers d'Alger. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, disait justement que ces accords d'Alger permettraient d'aller au bout de cette enquête. En quoi est-ce que les accords d'Alger ont un lien avec cette affaire?
Bon, personnellement, je ne vois pas la relation qui pourrait exister, en tout cas une relation de type organique entre les négociations qui se font actuellement, et puis l'assassinat des deux journalistes. Je ne vois pas quel type de relation il peut y avoir. Si vous me posez la question sur le devenir des négociations actuellement à Alger, ce serait plus facile pour moi d'y répondre. Mais quel type de relation, si le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius Laurent, n'a pas dit en quoi il y avait des relations ponctuelles ou de type organique. Moi, je ne vois pas la relation qui pourrait exister entre deux événements qui sont quand même assez différents. Le seul point commun entre ces deux événements, c'est la sécurité et c'est les pratiques qui relèvent d'activités criminelles qui régissent actuellement, qui se déroulent actuellement dans l'ensemble du septentrion malien et plus particulièrement dans la région de Kidal. Mmh.
Alors, Adam Thiam, on parlait d'à qui confier cette enquête. Est-ce que Paris sait des choses que Bamako ignore?
Franchement, je ne sais pas. Et puis, j'imagine que c'est plausible, hein, parce que c'est simplement des forces françaises et des Nations Unies qui sont là-bas, à Kidal. J'imagine qu'ils sont en relation avec la justice ou les autorités françaises, oui, ça ne m'étonnerait pas effectivement que Paris sache des choses que Bamako ne sait pas.
Alors Serge, je reviens sur cette question que j'ai posée à André Bourgeot. Le lien qu'il faut avoir aujourd'hui entre les pourparlers d'Alger et cette affaire.
Je crois que si Fabius a fait cette déclaration, c'est parce qu'il se disait si la paix revient, on pourra fréquenter davantage le nord du Mali et on pourra pourquoi pas sur le terrain enquêter plus facilement. Mais je ne crois pas parce que vous êtes actuellement en train d'avoir des accords d'Alger, d'accord, mais après les accords d'Alger, il va falloir les appliquer sur le terrain. Vous auriez d'autres accords à faire, cette fois-ci avec les djihadistes sur le terrain, parce que, je le répète, dans le nord du Mali, l'erreur de la communauté internationale est d'avoir pensé à un moment qu'il y avait des djihadistes fréquentables et des djihadistes non fréquentables, alors que les djihadistes qu'on disait fréquentables étaient le fauné, Adam Thiam, qui a l'imagination fertile, parle de cache-sexe des non fréquentables.
Les pics ne montent pas à l'endroit d'Adam Thiam.
Oui, c'est mon cousin, à plaisanterie par la force des choses, et que donc la question ne va pas être réglée, donc c'est pour cette raison que je ne vois pas pas très bien sur quoi M. Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, se base pour faire ce genre de déclaration. Je suis pessimiste pour une chose. Vous allez avoir des accords d'Alger à la fin du mois, à la fin de l'année probablement, mais il y a d'autres choses à faire. Le deuxième problème, c'est comment faire une dichotomie sur le terrain entre les djihadistes et les groupes armés qui se veulent anti-djihadistes.
Peut-être c'est là que c'est important d'analyser ce que Fabius a dit. Tout le monde sait qu'il y a un système de vases communicants entre les groupes armés et peut-être les éléments djihadistes, même criminels, qui infestent la région de Kidal. Mmh. Alors, donc, en faisant un accord...
Alors, c'était la dernière question que j'allais poser. Ce tri, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire le tri entre les groupes armés et les groupes terroristes? Vous avez une minute, Adam Tiam.
Alors, moi, je trouve que c'est extrêmement difficile, mais tant qu'on ne fait pas ce tri, on n'aura pas de paix au nord du Mali.
André Bougeau, vous aviez une minute, mais malheureusement, vous ne l'avez pas, vous ne les avez pas utilisées. Je me retourne vers André Bougeau. André Bougeau, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de faire le tri entre les groupes armés et les groupes terroristes présents aussi aujourd'hui dans le Nord?
Non, compte tenu de la confusion qui prévaut et qui règne un petit peu partout dans le septentrion, c'est très difficile de dire voilà les bons et voilà les méchants. D'autant plus que l'on sait très bien que ce sont des entités un peu artificielles, dans la mesure où un élément peut appartenir à un groupe et passer à un autre groupe. Donc les frontières sont très poreuses. Une fois, je peux être membre du MNLA, et même dans le MNLA, il y a une tendance aussi djihadiste, et puis faire un coup avec Acni ou avec Ansar Eddine. Non, je pense pas qu'il y a une telle confusion, c'est pas possible de faire ce type de distinction, ce type de tri. Et c'est encore beaucoup plus compliqué maintenant qu'il y a encore 3 ou 4 mois. On voit bien tout ce qui se passe. Il y a des nouvelles stratégies, il y a l'utilisation des mines, etc. Qui pose les mines, on n'en sait rien. Donc c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus confus. Et la confusion aussi, elle a une fonction politique. Et cette confusion, elle se généralise dans un contexte où on négocie. Et c'est dans ce contexte-là aussi que les groupes armés MNLA, HCUA et MAA créent une plateforme de type guerrière, puisque les objectifs de cette plateforme, c'est de lutter, c'est au niveau des déclarations, en tout cas des déclarations d'intention, de lutter contre les djihadistes se présentant comme étant les oraux du coin. Donc, bon, vous voyez, le tri, il est très, très difficile à faire.
Alors, aujourd'hui, Serge Daniel, faut-il demander à faire le tri aujourd'hui entre les groupes armés et les groupes terroristes? Si oui, comment?
Ça va être difficile. Vous vous souvenez à l'époque, le MNLA disait « Oui, nous, on ne voulait pas parler avec le Haut Conseil de l'Unité des Awad parce qu'ils sont terroristes, etc. » Aujourd'hui, ils sont ensemble. C'est très difficile. Je vous donner un exemple. À Kidal, vous n'avez pas l'armée malienne. Vous avez Kidal qui est contrôlé aujourd'hui théoriquement par le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad, une branche du mouvement arabe de l'Azawad, et ensuite le fameux MNLA. Ça n'a pas empêché, il y a quelques semaines, l'attaque du camp de la mission des Nations Unies à Kidal. Alors, ça veut dire qu'il y a des passerelles entre tous ces groupes-là.
Alors, quand on demande cette question, quand on pose cette question, justement, de la nécessité de sécuriser Kidal, le MNLA dit que la sécurisation de la MINUSMA n'est pas de son ressort.
Mais pourquoi? Mais bien évidemment, puisqu'ils sont responsables, puisqu'ils avaient dit à l'époque qu'ils étaient la principale force. Je vais vous dire, pour terminer, qu'il y a une passerelle entre tous ces groupes et que je ne vois pas comment on va faire une dichotomie désormais sur le terrain, demain sur le terrain, entre djihadistes ou ceux qui se disent qu'ils ne sont pas non djihadistes et qui se disent laïcs.
Alors, à quand la présence de l'armée malienne, Adam Tiam, à Kidal?
C'est une question pertinente. Il faudrait la poser aux autorités maliennes. Mais en tout cas, je suis convaincu que ce n'est pas les autres qui viendront faire la paix au nord du Mali. Il nous faut une armée forte, une armée capable de répondre aux menaces qui s'opposent au nord du Mali.
Merci beaucoup à vous. Merci à vous, auditeurs, également, d'avoir été des nôtres tout au long des 45 minutes. Voilà, tout est bien qui finit bien. Ce débat s'achève. Un grand merci à tout le monde. C'était le débat porté sur le double meurtre à Kidal de Ghislaine et de Claude de RFI. Voilà, ce drame qui a eu un an hier. Nous avons nous avons fait le point de la situation. Nous avons posé la question. Pouvait-on éviter cet enlèvement? Les leçons à tirer étaient... C'est la dernière partie de cette émission. Nos invités, Adam Tiam, éditorialiste, Serge Daniel, journaliste, écrivain, et André Bouchot, directeur de recherche au Centre National de Recherche de France. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Djouara était à la technique. Je vous dis à très bientôt.
grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.